Barbra Streisand.
Libre Radio, la radio qui bouge les lignes et qui renverse les situations. Podcast, newsletter, et pire encore sur www.libradio.org.
Voilà, ça c'est notre podcast OneFM. On voulait faire un petit peu comme eux, là, tout ça. Parce que c'est quand même une radio, voilà. Bienvenue à vous, Françoise et Paul, bienvenue.
Merci.
Est-ce que vous êtes bien installés ?
Ouais, ouais.
Très, très bien,
ouais.
Super. Alors nous sommes donc en direct sur la place des Grottes, ici à Genève, juste derrière la gare Cornavin. Et nous sommes avec vous parce que vous allez nous parler de ce collectif, Miel de Luciole, dont le nom déjà nous interroge. Hein, donc on va effectivement
on
relayer
ces...
Voilà, on va y revenir. Et puis du projet accolé à ce collectif, qui est cette pièce de théâtre, Tasse de café.
Tasse de café, Finjan Qahwa.
Voilà, merci. Ouais. Ouais, j'aime beaucoup le mot café en arabe. Redis-le. C'est le K. Ouais.
Le kaf, il ne le prononce pas toujours.
Ouais, très bien. Alors justement, c'est un projet qui est notamment bilingue et notamment mixte. Alors, mixte entre guillemets, bien entendu, quand je parlais de mixité, c'était pour, comment dire, insister sur le fait que c'était des personnes en exil de Syrie et des étudiants autochtones. Qui ensemble ont monté ce projet-là. Mais on va revenir là-dessus tout à l'heure. On va juste rappeler à nos auditrices et nos auditeurs que si elles souhaitent et ils souhaitent vous interroger ou nous faire un petit message, eh bien c'est possible via la page Facebook de l'émission. Il suffit de se loguer dans Facebook et de noter la comète à la banane, ou alors, pour celles et ceux qui n'en sont pas pourvus de Facebook, eh bien de nous faire un mail à l'adresse suivante, info@libradio.org. Nous allons également rappeler que nous sommes actuellement diffusés, parce que c'est le mois FM, sur la FM. Pour Genève, c'est 101.7. Pour Lausanne, malheureusement, je ne sais plus. Mais c'est le mois FM, donc on est ravis d'être un mois durant sur la FM et également sur la DAB et puis évidemment comme tout le monde sur le web. Voilà, donc allons-y. Donc qui veut commencer ? Peut-être toi, Paul, puisque si j'ai bien compris, le collectif, le nom du collectif, c'est un petit peu toi qui l'as inventé.
Ouais, c'était une idée de moi, mais...
Donc Miel de Luciole.
Miel de Luciole, pourquoi ? C'est en rapport avec un poème que j'ai écrit quand j'ai voulu commencer la... Le travail sur cette pièce et avec ce collectif.
Ça a commencé quand d'ailleurs
Ça a commencé à la fin de l'année dernière. Mm-hmm. Donc,
En 2016,
ouais, je dirais fin de l'année scolaire, hein, donc je dirais juin 2016.
D'accord.
On en parlait un peu avant et puis voilà, on a créé la sauce pour le collectif en septembre et puis on s'est mis à bosser à peu près à ce moment-là.
Mm-hmm.
Et donc le nom Miel de Luciole, pourquoi ? Parce que les Lucioles, ça fait de la lumière dans la nuit. Et donc on avait cette image, enfin c'est un peu symbolique, hein, les ténèbres, l'ignorance, enfin la lumière, voilà. Et puis le miel, c'est le produit collectif des abeilles. Donc ça fait quelque chose comme un produit collectif qui donne une certaine lumière. Enfin c'est assez basique comme image, hein, mais...
Ah mais non, carrément, moi je trouve que c'est carrément recherché, c'est chouette. C'est-à-dire que donc il y a cette notion de collectivisme, de collectivité,
voilà, du
de
travail en groupe, quoi. Et puis ouais. et puis en plus on imagine le miel de Luciole comme un miel, quelque chose de doux, voilà, et puis en même temps lumineux, quoi, donc fluorescent un peu.
Ouais, et puis cette lumière qui brille dans l'obscurité, finalement, réenchante nos vies, réenchante le monde.
Exactement.
D'accord. Et puis alors le miel, ça n'est pas que doux en plus, hein. C'est également un aliment,
ça
a des vertus thérapeutiques.
Bon, on n'avait pas poussé
plus loin. Ah non, mais je sais pas.
Effectivement. Ouais,
d'accord.
Ouais,
alors ça vient de là. Ok. Mais alors toi, cette réflexion, tu l'as menée tout seul dans un coin ou à un moment donné ? Parce qu'à un moment donné, il a fallu vendre cette idée.
Ah bah après, voilà. Moi, c'est vrai que quand j'ai écrit le poème, c'est l'image qui m'est un peu venue. Puis après, j'en ai parlé avec les autres et j'essaie de les convaincre que c'était pas bizarre. Mais c'est après, les gens sont rentrés aussi dans le délire et puis ils ont porté le truc aussi, quoi.
D'accord. Puis Françoise, toi, alors quand t'es arrivée ?
Alors moi, en fait, ouais. À la base, on faisait du théâtre dans un atelier avec Paul et puis c'est de là qu'on se connaissait. Et puis en fait, ça a été aussi une année assez spéciale à travers ces ateliers-là, parce qu'on avait en fait une pièce qui portait beaucoup sur la thématique de la guerre et des conflits et de tout ça. Et puis du coup, en fait, notre prof a fait venir plusieurs intervenants dans ces ateliers. Et en fait, une après-midi, elle a fait venir un policier anglais. Alors au début, on ne comprenait pas vraiment quel était le rapport. Et puis cet homme a commencé à nous raconter son histoire. Et puis en fait, il était parti en vacances en Grèce. Et puis il avait atterri sur une île où il s'était rendu compte qu'il y avait une énorme majorité de réfugiés syriens qui étaient là. Et il s'est dit qu'il ne pouvait pas repartir sans pouvoir collaborer avec eux et faire quelque chose vraiment pour les aider. Du coup, il nous a raconté son histoire. Il nous a expliqué comment il avait eu cette volonté de finalement partir s'installer là-bas et les aider et tout ça. Et en fait, à la fin de cet entretien avec cet homme, on a tous été très touchés. Et puis Paul est venu me voir et puis il m'a dit, mais en fait, on devrait trop faire quelque chose aussi à notre portée, à nous. Et j'étais totalement d'accord. Et c'est quelque chose qui m'a toujours vraiment beaucoup tenu à cœur, de pouvoir mélanger le social avec l'art. Et c'est un peu de là que c'est parti. Ensuite, lui, il a fait un peu sa petite cuisine intérieure avec ses poèmes et l'écriture et tout ça. Et puis comme il a dit, en juin, on en a un peu reparlé, et puis c'est là où on a décidé qu'on allait concrétiser ce projet.
Très bien. Alors c'est bien parce que c'était la question qui allait venir, hein. Qui êtes-vous exactement dans Miel de Luciole et qui faites-vous? Mais alors, comment vous en êtes arrivé finalement au théâtre? Parce que là, tu parles de poésie, hein, Paul, mais là maintenant, le projet qui va arriver, dont on va parler un petit peu plus tard, c'est du théâtre.
C'est du théâtre. Ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que... On a eu cette conversation avec Françoise et avec Noé, qui fait la musique dans la pièce. Et ce qu'il y a, c'est que moi, vu qu'on était dans un contexte de théâtre quand on a eu la réflexion, on s'est dit, c'est vrai que vu qu'on fait tous du théâtre et qu'on parle de ça, bah, on pourrait l'amener comme ça. Et ce qui se passe, c'est que moi, j'étudie l'arabe à l'Uni. Et du coup, je me disais encore plus, quoi, j'étudie cette langue et il y a des gens qui sont là. Et du coup, faudrait amener quelque chose en rapport avec ça et que ça puisse me servir, en fait. Et que ça puisse servir à d'autres aussi. Mmh. Et du coup, c'est comme ça qu'est née un peu l'idée, puisque c'était des gens avec qui on faisait du théâtre, et puis qu'on avait cette volonté de travailler sur l'échange entre les langues. Le théâtre, ça permettait ça, et c'est comme ça que c'est né un peu.
D'accord. Avant de passer vraiment stricto sensu au projet, donc le théâtre, bilingue, etc., avec ce thème-là, qui est un thème tout à fait délicat tout de même, j'avais envie de vous poser la question sur, pour vous, l'art a-t-il une fonction justement sociale, politique, voilà, comment vous vous situez par rapport à ça, en tant qu'artiste ou même?
Ben, moi, pour moi, ouais, l'art, je trouve que c'est encore le meilleur moyen de communication actuel, malgré toutes les avancées technologiques et tout ce qu'on peut dire. Je pense que le fait juste de se réunir dans une salle et que les gens soient d'accord de s'asseoir et de prendre un temps pour écouter, c'est quelque chose d'essentiel. Et vraiment, c'est à la base de tout, quoi. Et puis du coup, ça amène à une telle réflexion par rapport à la nature humaine, par rapport à beaucoup de choses qui voilà, se faisaient déjà à l'Antiquité et qui continuent encore... À travers le temps, et c'est ça que je trouve magnifique avec le travail qu'on essaye de faire, quoi. Mmh. Parce que c'est vrai que souvent on entend beaucoup parler de choses et puis le contexte politique est tellement compliqué et puis souvent moi je ressens beaucoup l'impuissance, quoi, parce que je me dis je suis dans mon confort, je suis en Suisse, j'ai rien de particulier non plus qui me lie à ça, mais en même temps ça me touche extrêmement et je sais pas quoi faire, et puis du coup il y a comme une urgence qui se dégage de tout ça. Et puis voilà, moi comme, enfin, j'essaye vraiment de dédier ma vie entre guillemets au théâtre. Ben, je me suis dit que c'était la meilleure manière, c'était de faire quelque chose à travers ça.
Ouais, d'accord. Paul, tu veux?
Ouais. Pour ma part, en fait, je dirais quelque chose comme l'art. Il est social parce que c'est son but, en fait. C'est le but quand tu produis quelque chose, de toucher les autres, de créer du contact et d'avoir de la discussion autour de ça. J'ai l'impression que c'est vraiment ce qu'on cherche à faire. Et puis, d'autre part, l'art est politique, mais presque par nécessité, en fait. C'est pas quelque chose qu'on essaye de créer ou d'amener, mais c'est juste que ça fait partie de la démarche, parce qu'on peut pas... On ne peut pas être avec des gens et partager avec des gens sans avoir un minimum d'investissement qui soit politique, social ou idéologique. Donc on n'a pas forcément ce propos-là quand on crée le projet Miel de Luciole, mais dans le contexte dans lequel on est, c'est forcément un peu politique, quoi. Mmh.
Et alors justement, tu l'as un peu ébauché déjà, Françoise, mais selon vous, le théâtre a-t-il une place dans cette société un petit peu singulière, un petit peu trouble, dans le sens où on voit que les choses s'accélèrent et que le théâtre, justement, ça va un petit peu à l'envers de ça. Il faut prendre le temps, il faut monter un décor, il faut préparer une pièce, vous allez en parler d'ailleurs, ouais. Il faut faire un filage, enfin, il y a tout un temps donné. il faut s'asseoir pour déjà comprendre un thème et puis le mettre en scène. Alors, est-ce que cette place du théâtre, est-ce qu'il y a encore une place pour le théâtre dans une société de la vitesse, là où le théâtre pourrait être justement, nécessite une respiration et un temps de latence ou en tout cas d'arrêt?
Ouais, je pense que c'est une décision individuelle à prendre. Si on se dit qu'on a besoin de sortir un peu de ce tumulte pendant que ce soit une demi-heure, le temps de notre pièce ou quoi que ce soit, je pense que c'est un recul qui est vraiment essentiel et nécessaire à chacun. Et puis oui, évidemment, ça va vraiment à contresens par rapport à tout ce qu'il y a autour. Mais en même temps, c'est ça qui est beau aussi, je trouve. C'est de dire, écoutez, on va autre part. Et puis, mais en même temps, ça va autre part, mais c'est toujours en écho. Je sais pas, il y a toujours quelque chose qui fait qu'on est aussi obligé de travailler un peu avec ça, parce que ça fait partie de la manière dont on vit, ça fait partie de notre société, de tout. Donc
c'est ça qui fait que c'est beau, c'est aussi ça qui fait que c'est nécessaire, en fait.
Ouais.
Le fait qu'on soit dans une société où justement on prend pas ce temps-là et on veut tout de suite, fait qu'il faut qu'on apprenne ça, il faut qu'on apprenne que les choses elles se font pas en un claquement de doigts et que si on veut produire quelque chose il faut bosser et en soi on découvre des choses tellement, enfin nous c'est notre premier projet donc on apprend aussi énormément en faisant ça et du contact qu'on a avec les autres, que ce soit avec les migrants ou avec les jeunes de Genève, on évolue énormément et en fait ouais, c'est ça qui fait que l'art nous fait grandir un peu, sans vouloir faire une présentation de bateau.
C'est chouette d'entendre ça, effectivement, d'aller à contre-courant comme ça et de ne pas, parce que vous devez heurter certains codes, j'imagine. Et alors justement, comment s'est passée cette rencontre avec ces personnes en exil? Parce que j'imagine que ce sont quand même des personnes qui sont accidentées. J'entends par là qu'elles elles ont une vie délicate, compliquée. Comment est-ce qu'on arrive à les mettre en confiance? Parce que faire du théâtre, c'est également d'une certaine manière se livrer, se dénuder.
Ouais.
Et alors ces personnes-là, il a fallu, j'imagine déjà, que la rencontre se passe bien. Et puis ensuite dire, écoutez, on va aller tous dans le même sens. Ce sera ce sens-là. Comment ça s'est passé? En plus, des personnes qui ne sont pas francophones.
Alors, je dirais que ça s'est fait de manière super naturelle. En fait, on les a... au début, on a cherché à prendre contact avec les lieux pour demandeurs d'asile, etc. Et en fait, ça a pas trop abouti. Et finalement, les gens qu'on a rencontrés, les a rencontrés par du bouche à oreille, par des gens qui eux-mêmes sont investis dans des assos et puis qui nous ont dit mais peut-être telle personne pourrait être intéressée. Puis nous a donné un numéro et on les a rencontrés comme ça. Et en fait, à chaque fois, on les rencontrait un peu un par un. On allait boire un café ensemble et on parlait. Et puis c'était des jeunes de entre 18 et 25 piges qui vivaient des choses pas forcément faciles, mais en même temps on sentait une énergie super commune avec eux. On sentait que finalement ils vivaient aussi quelque chose de proche, tu vois. Il y en a un qui est étudiant en dentaire, en médecine, Rami, et finalement c'est un jeune de 20 piges, quoi. Donc il y a énormément de choses qui sont allées très vite dans la relation qu'on a pu développer avec tous. Et effectivement, il a fallu mettre en confiance, mais c'était la même chose avec les jeunes voix, quoi. C'était.
Ouais, alors justement, François, si tu veux compléter ce que vient de dire Paul.
Alors c'est vrai que donc avec les migrants, ça s'est fait plus avec du bouche à oreille. Mm-hmm. Et puis en fait, avec les jeunes voix, c'est aussi ça s'est aussi fait comme ça. On a fait un premier comité avec Paul et puis on a créé une adresse mail et puis on a décidé d'envoyer le premier mail concernant le projet à des gens qu'on connaissait, à des gens avec qui on avait travaillé dans des ateliers ou des connaissances. Et ce qui a été super avec ce projet, c'est qu'on a eu beaucoup de réponses rapidement, quoi. Les gens, même si pas tout le monde pouvait vraiment nous promettre d'être investi en tant que comédien ou en tant que quoi que ce soit de très concret, tout le monde nous a beaucoup comment on dit, pas supporté, ça c'est en anglais, mais
soutenu,
soutenu, exact. Et du coup, c'est ça aussi qui a donné une dynamique au début et qui a fait qu'on s'est accroché à cette idée et puis qu'on a continué comme ça, quoi. Je pense vraiment la réponse extérieure qui a été très positive de la part de nos profs aussi, de la part de toutes les personnes autour de nous, ça a vraiment aidé, quoi. Mm-hmm.
C'est vrai qu'on a été aussi très soutenus par mes profs de l'Uni, des profs en langue arabe, etc., qui nous ont tout de suite dit « mais c'est vrai que c'est un projet super cool, donc allez-y ». Et enfin, vraiment, à chaque fois ça nous a beaucoup porté. Hein. À chaque fois qu'on en a parlé à quelqu'un, même s'il nous a dit « ah, je peux pas vous aider parce que là, je fais autre chose » ou parce que j'ai d'autres projets, mais ce qui ressortait à chaque fois, c'est « faites-le ».
Ouais, okay. C'est ça.
Pas forcément être là, mais faites-le parce que c'est une idée cool.
Ouais. Waouh. Justement, si vous aviez besoin encore de soutien, de quoi auriez-vous besoin et comment est-ce qu'on pourrait vous le fournir ? Est-ce qu'il y aurait besoin de locaux pour répéter, de prochaines dates pour le spectacle ou de sous parce qu'il y a des costumes, un décor ?
Bah là, on arrive quand même gentiment au bout, hein, c'est dans 2 semaines, donc je crois qu'on commence à être à avoir ce qu'il nous faut. Hein, on a eu une subvention et du coup...
Pour le moment,
je crois que
ça va. Il faut juste qu'il y ait des gens qui viennent au spectacle.
Voilà, exactement,
voilà,
faut venir.
Voilà, on va parler vraiment pile poil juste après ça. Mais ouais. J'avais encore quelques questions d'ordre général, puis ensuite on va poser la question aux personnes qui sont entre nous, si des gens auraient des questions qui surgiraient comme ça. Mais... Et ce choc des civilisations, alors ? La rencontre de ces cultures ? Qu'en est-il ? Comment ça s'est passé ? Pour vous qui alliez vers ces personnes en exil, dont on sait la situation délicate, et pour ces personnes qui arrivent et qui, je suppose, mais j'en sais rien, hein, je vous le demande, ne connaissent pas grand-chose des codes qui nous meuvent ici.
Ben, en fait, comme a dit Paul précédemment, il y a quand même un truc qui nous réunit, c'est qu'on a tous à peu près le même âge et puis on vit dans la même ville. Donc déjà, ça, c'est vraiment les deux éléments principaux qui font que... Voilà, même le projet a pu prendre vie tout simplement. Et puis, ce choc des civilisations, enfin moi, je sais pas, je l'ai vécu différemment. Parce que moi, personnellement, je parle pas arabe du tout. Je suis même pas à l'Uni en arabe ou quoi que ce soit. Donc pour moi, déjà au niveau de la langue, c'était un peu compliqué. Mais en fait, justement, avec le théâtre, on voit bien que la langue n'est pas une barrière. Et qu'en fait, il suffit d'apprendre à travailler avec... Et c'est surtout voilà, à travers d'autres exercices de corps, de mouvement, avec la musique. Il y a vraiment plein d'autres manières de pouvoir communiquer avec des gens qui ne parlent pas forcément notre langue ou nous, la leur. Et puis voilà, ça s'est fait petit à petit. Et puis, c'est pas que ça a pris du temps, ça a pris le temps qu'il a fallu. Mais c'est vrai qu'on sent maintenant, qu'on est à 2 semaines du spectacle, qu'il y a quand même un groupe qui est là et que les gens sont soudés entre eux et... Et ça fait plaisir à voir, quoi, parce que c'est un peu l'objectif. C'est un peu l'objectif de départ.
Ouais, super.
Ouais.
Paul.
Moi, je crois pas trop en fait au choc des civilisations, à cette théorie-là, dans le sens où pour moi les civilisations c'est pas des blocs hermétiques. Tout est totalement toujours en contact et en échange, et c'est à travers ça qu'on se construit. Et donc, moi, j'étais ravi, et je pense que c'est le propos de la pièce aussi. J'étais ravi en fait d'aller vers des choses. Qui sont certes différentes, mais aussi d'y trouver plein de points communs et de voir comment, en fait, eux, quand... la pièce joue un peu sur ça, en fait. Quelle représentation, nous, on peut avoir de l'Orient, alors que c'est pas forcément une catégorie qui veut dire quelque chose, hein, mais de cet Orient, un peu, voilà. Et comment, eux, ils pouvaient aussi se représenter l'Occident et quelles attentes ils avaient quand ils sont arrivés là, et puis à quoi ils s'attendaient, quoi. Et du coup, voilà, j'ai l'impression que c'est des notions qu'on a qui sont intuitives, mais en fait, quand on y réfléchit vraiment, quand on déconstruit un peu le truc, ça n'a pas tant lieu d'être que ça, quoi. Il n'y a pas de... Effectivement, il y a des codes culturels qui sont un peu particuliers, mais il n'y a pas de barrière civilisationnelle. Ça n'existe pas.
Tu penses que ça, c'est quelque chose... Parce que c'est vrai que... Moi c'est la... Je suis ravi de vous entendre dire tout ça, hein. Mais c'est vrai qu'on baigne dans un contexte où on sent qu'il y a en tout cas une tension qui est alors certainement biaisée puis certainement installée d'une certaine manière. Mais vous pensez que c'est par ailleurs la classe d'âge commune, comme vous l'avez dit, et le lieu commun qui fait que cela n'a pas cours ? Parce qu'on l'entend quand même, si on passe par les médias, si on observe un petit peu ce qui nous entoure, on sent qu'il y a une tension, on sent qu'il y a des réponses qui sont faites dans la brutalité sans prendre le temps de s'écouter.
Alors oui, il y a notre âge, il y a le lieu, bon, il y a la mondialisation aussi, parce que finalement, eux, ils ont grandi dans un truc où ils écoutaient du rap américain, donc on a aussi des...
Il y a des choses communes.
Voilà,
d'accord.
Et puis, il y a simplement le fait que, au final, c'est con à dire, hein, mais c'est des êtres humains, et on est des êtres humains, et du coup, voilà, c'est déjà une base sur laquelle construire. Et du moment qu'on a envie d'aller vers les autres, moment qu'on a envie de jouer, il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas, quoi.
Je pense qu'aussi, il y a une envie commune, et ça, c'est hyper important, parce qu'en fait, ces jeunes, s'ils sont encore là avec nous aujourd'hui, c'est qu'ils avaient envie de nous dire quelque chose, et nous, on a eu envie de les écouter. Et je pense que c'est cette volonté d'avoir à s'exprimer, et puis voilà, parce que pour nous on apprend tellement c'est quelque chose d'extrêmement formateur, parce que moi j'aimerais bien faire une carrière dans l'art et dans le théâtre plus particulièrement. Et enfin, c'est la première fois que je dirige un projet comme ça, et pour Paul aussi. Alors pour nous, c'est vraiment voilà quelque chose qui nous apprend énormément de choses. Et puis aussi, on leur laisse l'opportunité de pouvoir s'exprimer sur une scène devant un public. Il y a des, enfin, c'est un vrai spectacle. Il y aura des lumières, tout ça. Et puis pour certains, ça va être la première fois qu'ils montent sur scène. Et du coup, je pense qu'en fait, c'est cette envie commune d'avoir à créer ensemble qui fait que il y a plus de questions qui se posent, quoi, finalement. Et puis, si on est là pour bosser, on bosse et ça se fait, quoi. Et c'est ça qui est génial avec ce projet.
Ouais, super. Est-ce que pour vous, il y a déjà un avant et un après Tasse de Café?
Il y a un avant, c'est sûr. Et oui, il y aura un après parce qu'on a, comme je l'ai déjà dit, hein, mais bon, déjà à travers les contacts qu'on s'est créés. Avec ces jeunes, autant avec les migrants qu'avec les jeunes voix, on a vraiment créé quelque chose. J'ai l'impression qu'on s'est soudés et puis que faut vraiment pas passer à côté de ça, quoi. C'était vraiment le truc fort de ce projet. C'est ce qu'on a créé humainement, je crois. Enfin, ce qu'on a trouvé humainement. Et puis oui, nous on a je pense tiré énormément de leçons sur comment on monte un projet, qu'est-ce que trouver une salle, trouver des subventions, faire la promo du truc, écrire, enfin chaque étape en fait c'était une découverte. Ouais. Donc il y a plein d'expériences qui sont nouvelles. Et puis moi ce qui m'a vraiment beaucoup plu, s'il doit vraiment tirer une chose, c'est l'écriture à plusieurs, c'est suggérer des choses dans une langue qui est pas forcément la nôtre, et puis l'autre va dire ah ouais mais moi je le dirais pas comme ça dans ma langue, je le dirais comme ça. Et puis ensuite simplement de discuter, genre qu'est-ce que vous voulez raconter en fait sur cette scène, parce qu'au début on est arrivé, on n'avait rien. Qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce qu'on a envie de raconter comme histoire, quoi.
Ouais. Françoise, tu veux ajouter quelque chose ou pas? Non, c'est comme
ouais, je sais pas. Non, c'est vrai. Enfin, c'est quelque chose qui, moi aussi, j'ai. Enfin, par exemple, Paul parle beaucoup de l'écriture parce que c'est vrai que ça a été un peu sa partie à lui. Mais moi, à travers ce projet, j'ai aussi beaucoup découvert le travail de mise en scène. Bon. J'y connais rien, mais c'est vrai que grâce à ça, en tout cas, je me suis mis un peu de ce côté-là. Et qu'est-ce que ça veut dire, ouais, de diriger des gens et de savoir les emmener dans certaines directions pour pouvoir faire avancer la pièce. Et puis, ouais, aussi, ce qui est super intéressant, c'est qu'en fait, on se rend compte que si on veut faire du théâtre, c'est pas juste monter sur scène, c'est pas juste... Il y a tellement autour. Et voilà, comme dit Paul, juste... trouver une salle, trouver des subventions, aller dans la rue mettre des affiches, enfin, ça touche vraiment plein de domaines et c'est ça qui est hyper passionnant et intéressant. Ouais. Avec ça, quoi.
Très bien, alors on va dans la deuxième partie parler plus précisément de ça. Okay. Du sens des mots et du sens des gestes, parce que comme vous l'avez ébauché déjà, ça a du sens. Mm-hmm. Et puis que c'est des sens qui peuvent être différents selon qu'on soit du point de vue occidental en guillemets et oriental. Typiquement, le mot café peut représenter certaines choses, même d'ailleurs à l'intérieur de ce que l'on désigne sous le mot d'Occident. Le café n'a peut-être pas le même sens en France, en Italie, qu'en Suisse, la pause café qu'aux États-Unis, etc. Et alors évidemment, on sait que le ahwe ou le kahwa en Orient, là aussi, il a un sens social également. Alors je vous propose qu'on fasse là aussi, qu'on prenne le temps, qu'on fasse une petite respiration musicale. Et juste derrière, eh bien, nous allons entrer plus en matière précisément sur le projet et la pièce de théâtre. Ça vous va comme ça?
Avec grand plaisir.
Super. Alors, nous, on y va avec, on le rappelle, aux auditrices et auditeurs qui sont en ligne ou qui sont derrière leur poste FM sur 101.7, eh bien, que si vous souhaitez interroger nos invités, eh bien, rien de plus simple, vous le faites par le mail suivant, info@libradio.org, ou alors via la page Facebook de l'émission La Comète à la Banane. On s'écoute un petit Alpha Blondie, parce que science sans conscience, c'est Rabelais, hein, c'est ça?
C'est Rabelais.
N'est que ruine de l'âme. C'est parti.
Science, sans conscience, les océans sont radioactifs. Avec les missiles qui réfléchissent, la terre entière s'asphyxie. C'est un vrai suicide collectif. Science
sans conscience.
Je nage dans la Seine, tout d'un coup j'avale un rat. Alors j'étouffe et puis je coule. Et en bas il y a des huîtres, elles m'attrapent les chevilles. Alors je vomis le rat sur les huîtres, le rat il attaque les huîtres, je remonte à la surface, je prends une péniche dans la tête et là je me réveille.
Libre Radio, la radio qui rêve. www.libradio.org.
C'est pas bien de tronquer comme ça les jingles. Igor à la technique aujourd'hui. Alors, donc nous sommes toujours en compagnie de Françoise et de Paul. Tout va toujours bien pour vous?
Très
j'espère,
bien.
Ouais. Oui. On est donc en direct et en public depuis la place des Grottes ici à Genève. Le temps est agréable, on est bien dehors comme ça, en t-shirt même.
Petit rayon de soleil.
Voilà, et il s'agit de le rappeler, nous sommes devant la Maison Verte qui accueille aujourd'hui le repas solidaire pérouvien. Donc ce sont des animations pour les adultes et les enfants de midi à 20h aujourd'hui et demain dimanche. En soutien aux personnes au Pérou victimes des éboulements et des inondations qui ont eu lieu en mars 2017. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre ici sur la place, d'aller visiter les personnes qui... voilà, il y a des empanadas, il y a plein de choses à manger et à boire ici, c'est très agréable. Il y a des animations, il va y avoir même un concert à 16h il me semble, donc bienvenue à toutes et à tous. Nous parlons Syrie, théâtre, et dans ce cadre-là, votre projet, donc à vous, collectif Miel de Luciole, c'est cette pièce de théâtre Tasse de café, que l'on dit en arabe.
Fenjan Qahwa.
Voilà. Donc, c'est un projet dont, parmi les singularités, c'est qu'il est bilingue, arabe et français. Une autre de ses singularités, c'est qu'il est fabriqué, créé par des étudiantes et des étudiants locaux ici à Genève, ouais. Et également par des personnes en exil, ouais. Syriennes et syriens.
Qui sont aussi majoritairement des étudiants en fait. Hein.
C'est des étudiants également, ok. Et on va d'ores et déjà donner les dates des représentations. Donc ce sera le 28, 29, 30 avril et le 1er mai à 20h, sauf le dimanche à 17h, à l'Almacène 6 rue des Amis aux Grottes, avec le lundi.
Le lundi, peut-être qu'on jouera un peu plus tard, vers 20h30. On va essayer d'organiser un petit débat avant ou quelque chose, un peu une discussion quoi.
D'accord. Ça va se passer à l'Almacène ici, en plein cœur des Grottes. Y a-t-il, comment est-ce que les personnes peuvent éventuellement se renseigner ou voir des petites choses concernant s'il y a un site internet?
Je dirais que le meilleur moyen, c'est la page Facebook.
D'accord.
Après, ils peuvent nous envoyer un mail, mieldeluciole@gmail.com. Je pense que Facebook, c'est encore la meilleure solution. On n'a pas encore fait le site.
Et donc, Facebook, on note le Miel de Luciole et on tombe dessus.
Ouais. Voilà, collectif Miel de Luciole.
Ok. Ouais. Alors, allons-y. L'entrée, c'est un prix libre?
L'entrée, ce sera prix libre. Il y aura un chapeau à la sortie. Et puis, normalement, il y aura de la nourriture syrienne, peut-être de la nourriture suisse aussi, on va continuer sur cet échange. qui sera aussi en prix libre, je pense.
Ok.
Et donc il n'y a pas de réservation, il faut venir un peu avant, en espérant qu'il n'y ait pas trop de monde et qu'on n'ait pas à refuser des gens.
Ouais. Bon, il y a quand même pas mal de représentations quand même, mais effectivement.
Voilà, ouais.
Ok, puis alors comment ça va se passer? Donc là, c'est dans la salle du milieu.
Ouais.
Alors donc les personnes entrent dans l'Almacène et puis il y a un décor. Enfin, racontez-nous.
Alors, voilà. En fait, donc le décor de la pièce, c'est, bon, on va essayer de pas trop spoiler, mais...
Non, sans spoiler, mais juste pour exciter un peu la curiosité.
En gros, ça se passe dans un café. Donc déjà, quand on arrive à l'Almacène, à l'entrée, il y a déjà un peu cette ambiance-là qui se met en place avec le petit bar. Et puis on va essayer en fait de faire un café pour les clients. Et donc en fait, ils arrivent dans un café et la salle de spectacle est en fait une prolongation, un peu, on pourrait dire, de cet espace-là. Et on va essayer un peu de jouer là-dessus. Parce que c'est ça la thématique principale de la pièce. Le partage, l'échange autour d'une tasse de café, c'est ce qui réunit tout le monde. Et puis c'est ce qui permet de se livrer, de parler et tout ça. Quoi.
D'accord. Et dans cette... Alors j'imagine qu'il y a plein de thèmes du coup, qui vont entrer en matière dans ce café créé. Y a-t-il notamment celui du féminisme ou des présences des femmes dans les cafés?
Alors oui, il y a
bon, un petit peu ou pas?
Un petit peu, on essaye de toucher plusieurs thèmes, mais c'est aussi venu beaucoup par rapport à l'écriture de chacun, donc des envies aussi de chacun. Ça traite pas mal quand même de l'exil, de ce que ça veut dire de partir, de revenir, de voyager, de qu'est-ce que c'est être chez soi, qu'est-ce que c'est tout ça. Ensuite. L'échange se fait surtout à ce niveau-là et par rapport aussi à la compréhension des langues, tout ça c'est un grand thème aussi dans la pièce.
Exactement. Alors comment est-ce que vous avez réussi ce pari un petit peu dément de faire une pièce de théâtre en deux langues? Comment ça se passe sur place? C'est surtitré?
Non, c'était ça le plus dur en fait. Moi je voulais pas de sous-titres, je voulais pas qu'on soit tout le temps ou d'avoir des interprètes qui traduisent tout. Je trouve que c'est dommage, on perd trop simplement le regard du public, parce que s'ils regardent des sous-titres, ils regardent pas le jeu des acteurs, et je trouve ça vraiment pas bien. Et je trouve aussi que même quand on comprend pas quelque chose, on peut simplement s'émerveiller de la musique, de la langue et autant pour le français que pour l'arabe. Je trouve que c'est deux langues qui sont absolument magnifiques à l'oreille. Et je suis content en fait qu'il y ait des moments où certaines personnes ne vont pas forcément tout comprendre. Et le moyen qu'on a trouvé en fait pour jouer sur ça, en fait, pour faire cette pièce en bilingue, c'est que par moment on va se servir simplement du fait qu'ils se comprennent vraiment pas entre eux. Par moment on va faire simplement si je te dis quelque chose dans une langue et que tu sais que tu le comprends, mais que l'autre personne ne comprend pas, si dans ta réaction tu répètes plus ou moins ce que je dis, ou ta réaction peut expliquer en fait le sens de ce que je viens de dire.
Ou interpréter.
C'est
une jolie allégorie comme ça de comment est-ce qu'on se comprend, et au-delà effectivement des mots même.
Mais ça a été un jeu rigolo d'essayer de trouver des moyens pour qu'on se comprenne sans se comprendre quoi.
Mais parce que quand vous avez écrit le texte, du coup, vous l'avez écrit dans les deux langues. C'est pas exactement.
Disons, ça dépend des parties en fait. D'accord. Parce qu'il y a certaines parties, les deux premières scènes et la dernière, c'est moi qui les ai écrites. Et je les ai écrites d'abord en français, ensuite je me suis servi de ce que j'ai appris en arabe pour en traduire certaines parties. Puis après, je suis allé voir les migrants, puis je leur ai montré ce que j'avais fait. Ils m'ont dit, c'est bien gentil, mais on parle pas comme des livres quoi. Donc ils ont changé.
Eh oui, ça c'est un problème aussi.
Ils ont tout changé.
Qui apprennent l'arabe classique à l'université.
Exactement, ouais.
Alors justement, pardon, excuse-moi.
Et puis donc après, il y a d'autres parties où les migrants écrivent eux-mêmes, c'est des témoignages. Donc parfois ils ont écrit en arabe, parfois ils ont essayé de l'écrire un peu en anglais, français, puis on a retravaillé avec eux pour que... ce soit compréhensible.
Et aussi ce qu'il y a d'intéressant pour eux, je reprends juste là-dessus, c'est que pourquoi du coup il y a tout un travail qui se fait à travers la langue pour eux aussi. C'était beaucoup une volonté de leur part à eux, de, en venant faire ces ateliers avec nous, d'apprendre le français et de pouvoir communiquer dans une autre langue et dans la langue du pays là où ils habitent actuellement. Et puis du coup c'est vrai qu'il y a un grand travail à faire avec la diction. Et tout ça, le théâtre rend énormément service par rapport à ça, parce que du coup, il y a tout ce qui a à voir avec les intonations, l'interprétation, tout ça. Et du coup, c'est très utile pour apprendre une langue, je pense. Et ça, c'était aussi, ça faisait partie du projet.
Ce qui est très rigolo, c'est que bon, c'était déjà marrant d'avoir une pièce avec des migrants syriens qui parlent en arabe et des jeunes de Genève qui parlent en français. On a réussi à mélanger un peu le truc. Donc, il y a des jeunes de Genève qui n'ont jamais parlé arabe, qui se retrouvent à essayer de prononcer quelques mots en arabe. Et il y a des certains migrants syriens qui avaient vraiment à cœur de parler en français. Et du coup, qui l'ont amené, quoi.
D'accord.
Donc, tout le monde essaie de parler les langues de tout le monde.
C'est génial. C'est un vrai échange.
On s'amuse avec ça, en fait.
Alors, est-ce que vous avez constaté au travers de cette production que nous allions et là-bas et ici différemment au café, ou est-ce que le lieu café a des fonctions différentes entre le là-bas et le ici, ou pas tant que ça?
Il y a certainement quelques particularités un peu culturelles, etc. Après, on n'a pas fait non plus des recherches de thèse sur la vision du café.
Non, je me demandais si dans l'échange.
Mais effectivement, c'est vrai qu'eux, après, ils avaient certains réflexes. Et puis nous, déjà, eux avaient une certaine image de ce qu'est un café, et de ce qu'on y boit et de ce qu'on
voilà,
y fait.
Et
nous, on pouvait en avoir d'autres. Et ce qu'on a vu également aussi, c'est que nous, on avait une représentation de ce qu'est un café pour les Arabes. On s'est dit, il faut qu'il y ait des chichas, il faut qu'il y ait des narguilés, il faut qu'il y ait
Taola, le backgammon.
Voilà, exactement, c'est ça. Et en fait, ils nous ont dit, non, c'est un café, c'est un café, quoi.
Mais et eux avaient-ils de la même manière des représentations sur, je sais pas, les usages que l'on a ici quand on va au café?
Oui, probablement, un peu, ouais. Un peu, oui, effectivement. Ouais, et d'ailleurs, dans un des témoignages, celui de Youssef, je trouve qu'il y a un peu de ça. Parce qu'il justement, il raconte, je vais pas non plus trop spoiler, mais il raconte qu'il arrive dans un café à Genève. Et voilà, pour moi, ce qu'il dit et ce qu'il essaye de faire, c'était des notes de sa représentation.
J'ai une mini anecdote. J'étais allé en Tunisie il y a de cela longtemps. C'était encore Ben Ali qui était au pouvoir, donc c'était un petit peu différent, avec des portraits géants dans des cafés, dans des petits villages où les femmes n'avaient pas leur place. Et je m'étais levé parce que je pensais rendre service. J'avais envie de montrer des gages, hein, pour être pas embêté. Je voulais juste observer les gens. Et je m'étais levé pour aller vers il y avait une sorte de grand frigo pour aller prendre ma boisson, comme des fois on peut le faire ici. Et en fait, ça ne se faisait pas, en tout cas à ce moment-là, là-bas. Et c'était drôle parce que du coup, j'ai vu des regards un petit peu. Voilà. Puis moi, je me suis senti super gêné aussi. Et du coup, c'était marrant parce que voilà, je ne m'y attendais pas du tout. Et voilà. Bon. D'autres temps, d'autres mœurs. On parlait tout à l'heure du sens des mots, du sens des gestes et du sens de la musique. Parce que c'est un spectacle qui, effectivement, comme vous en avez déjà parlé, contient des mots, et les mots ont un sens, contient effectivement une scénographie, les gestes, et également la musique, puisque dans l'équipe, il y a une personne, Noé, que tu as cité tout à l'heure, qui s'est occupée de la musique.
Oui, effectivement.
Voulez-vous peut-être, nous en dire un peu plus sur ces trois notions, qui sont les trois des notions centrales?
Alors, est-ce que je commence par la musique?
Comme tu veux.
Donc Noé est arrivé et on a dit, nous en fait, chaque projet théâtral qu'on a fait, il y avait de la musique. Pour nous c'est un peu indissociable, et on savait que voilà, Noé c'était un super musicos, alors on lui a proposé. Et en fait, ce qui a été un peu difficile, c'est de jouer avec ces musiques là en disant, genre, est-ce que lui qui est genevois, s'il se met à composer des musiques un peu arabisantes, est-ce que ça va sonner super kitsch, ou est-ce que ce sera pertinent de le faire comme ça? Du coup, ça a été pour nous la difficulté musicale. Je trouve qu'elle a été là de trouver une justesse dans on fait pas non plus de la parodie de musique arabe, ou on fait pas que de la musique occidentale. Il faut aussi qu'on puisse chanter en arabe, etc. Donc de trouver un espèce de compromis et de trouver quelque chose qui soit juste.
Ouais.
Et après, voilà, le but toujours de la musique, c'est vraiment de porter le texte, de porter les acteurs et de créer l'ambiance, quoi. Mmh. Comme au même titre que le décor, je trouve. Et donc, qu'est-ce que j'allais dire?
Par rapport à la musique, là également, y a-t-il eu un regard, comment dire, interrogatif de la part des personnes syriennes et syriens, justement, en se disant, nous, on n'a pas le même rapport à la musique, ça nous paraît bizarre. Parce que finalement, si on rajoute de la musique dans le spectacle, est-ce que ça ne va pas le dénaturer d'une certaine manière? Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où, si j'ai bien compris, pour vous, la musique, elle a un sens parce qu'elle appuie. Est-ce que c'était également présent dans leur esprit à elle, eux?
Parce que syriens.
Je ne sais pas s'ils se sont vraiment interrogés là-dessus, parce que c'est vrai que, en fait, comme a dit Paul précédemment, nous, on n'envisage pas vraiment le théâtre sans qu'il y ait de la musique. Je trouve que c'est un élément très important pour plein de choses. Ça, voilà, comme on a dit, ça pile texte, ça amène une certaine atmosphère, ça rend vraiment service. Et du coup, en fait, on leur a amené cette musique dès le départ. C'était... Et puis ils ont l'air d'avoir bien suivi. Et puis voilà.
En fait, mais... ils ont même un peu joué avec ça. Et ça les faisait marrer qu'il y ait de la musique arabisante et tout. Et ça leur. Voilà, ils nous ont poussé aussi, ils nous ont mis en confiance en disant non, mais c'est vrai que c'est rigolo s'il y a la musique qui sonne un peu comme ça. Et je crois que ouais, ça leur a assez plu en fait.
Ils ont souvent eu leur mot à dire en amenant des morceaux. Donc ils nous envoyaient des liens de morceaux qu'ils connaissaient en nous disant ah ouais, ça pourrait être sympa si ça sonne un peu comme ça. Ou... Enfin voilà, c'est quelque chose que il y a aussi eu beaucoup d'échanges par rapport à ça.
Du coup, nous on était assez frileux au début, on disait bah on veut pas non plus faire de la musique trop voilà, et eux ils nous ont mis super à l'aise, et au final on se retrouve à faire il y a une basse acoustique et il y a un violoncelle, c'est Pauline qui joue du violoncelle, et ça donne tout de suite une couleur super orientale. Ouais. Et du coup
j'avais cette question aussi parce que je me demandais si eux justement en amenant des suggestions quant à la musique aurait voulu quitter le domaine un petit peu en guillemets folklorique ou en tout cas arabisant, disant non mais nous finalement on a plus envie d'un truc un peu électro et tout ou si il y a encore des si on va au Liban on cite encore Fairouz et Kalsoum,
hein, je veux dire, bien sûr qu'ils connaissent Fairouz effectivement, mais je crois qu'ils écoutent majoritairement de la même musique que nous, au final ils écoutent assez peu je crois de
musique traditionnelle etc.
mais en fait ça les faisait rire, enfin, il y avait à côté je pense qu'il y a quelque chose qui portait en eux et qu'ils avaient envie de montrer, et puis il y avait un côté caricatural qui les faisait rigoler aussi je pense.
Ok, on y va avec les gestes, la gestuelle, la scénographie. Françoise, tu veux nous en dire quelques mots?
En fait, on a commencé le projet donc à la base, quand on a commencé à se voir pour répéter, on se voyait une fois par semaine dans les locaux de l'école Péchier à Champel, et puis on avait 2 heures pour travailler tous ensemble. Puis c'est vrai qu'au début, en fait, la pièce, elle n'était pas du tout aboutie. Paul avait écrit 2 scènes, on avait quelques idées de texte, mais c'était vraiment parce qu'en fait, on a souvent aussi travaillé d'abord par le corps, par le mouvement, pour ensuite arriver à raconter une histoire. Et du coup, c'est vrai qu'au début, on faisait beaucoup de travail de corps, donc marcher dans l'espace, comprendre tout ce qui a à voir avec le rythme, avec beaucoup de travail comme ça, et du travail aussi pour apprendre à être ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire de former un cœur? Qu'est-ce que ça veut dire de parler ensemble? Ou toutes ces notions-là, elles ont d'abord existé avant vraiment la pièce en elle-même. Mm-hmm. Et du coup, c'est à travers ça que petit à petit, on a pu insérer le texte. Et puis voilà, on a essayé de fonctionner comme ça pour.
Ouais. Et ça a été facile d'entraîner toute la troupe là-dedans, parce que là aussi, j'imagine que les gestes n'ont pas les mêmes sens.
C'est vrai que ça a été un petit peu
les uns les autres.
Un petit peu délicat, parce que aussi, bon. Nous, on a une vision du théâtre qui passe toujours par cette notion de corps et d'être en mouvement, et c'est très physique en fait. Alors que pour beaucoup de personnes, ça, c'est que le texte et puis rien de vraiment plus. Et du coup, c'est vrai qu'au début, on avait beaucoup qui étaient un peu réticents à faire des échauffements, à venir habillés en tenue de sport. Et je sais qu'on commençait souvent les répétitions par faire des salutations au soleil, faire du yoga. Donc voilà, on se retrouve vite la tête en bas, tout ça. Et puis c'est vrai que c'est pas forcément des choses avec lesquelles ils étaient très à l'aise au début. Et puis maintenant c'est devenu un peu notre rituel, et puis je pense que chacun a pu un peu trouver son compte là-dedans, et puis voilà, mais c'est vrai qu'au début c'était un peu délicat à mettre en œuvre.
Ouais, vous avez dû vous rencontrer là aussi également, parce que je pensais également effectivement au contact physique, hein. Oui. Souvent au théâtre on se touche quand même un petit peu, c'est pas évident selon qui, selon quoi. Ouais. Enfin, d'ailleurs pas que avec des personnes qui viennent de loin, hein, je veux dire
c'est pour moi ça c'est pas une question
d'éloignement,
c'est juste une question. On prend des jeunes du cycle d'ici ou même du collège, enfin de n'importe où, ils auront ce même réflexe de pudeur un peu.
Voilà.
Parce que c'est une société qui est un peu comme ça aussi.
Et c'est vrai que le théâtre, en fait, ça force à vraiment mettre de côté toutes ces barrières sociales. Et puis je pense que beaucoup n'avaient pas conscience de ça en arrivant, parce que voilà, ils croyaient peut-être que ça allait être quelque chose d'un peu plus léger et tout ça. Mais c'est vrai que je me souviens une fois en répète, j'avais proposé un échauffement que on marche dans l'espace et que dès qu'on croisait quelqu'un, on se prenne dans les bras et vraiment juste sentir le contact physique sans aucune choses sociales en tête, je sais pas comment dire.
Connotations
sociales, voilà, exactement. Et du coup, oui, ça a été assez délicat. Et puis après, j'ai voulu en discuter avec eux. Et puis il y en a certains qui se sont sentis un peu bousculés par cet exercice ou qui ont pas été forcément très à l'aise. Et voilà, c'est vrai que c'est délicat aussi parce que moi, je sais pas non plus. Où m'arrêter ou comment oui. Par rapport aux autres, mais c'est voilà.
Mais en tout cas, je pense que toutes les personnes, toutes auditrices auditeurs qui ont fait un petit peu de théâtre, là, elles vont bien comprendre exactement ce que ça implique. Effectivement, ces moments de répétition où tout d'un coup, on se sent un petit peu devant l'abîme. Ouais. On se dit, est-ce qu'on fait ce pas-là? On va un petit peu dans l'inconnu, parce qu'effectivement, il y a des astuces qui se forment à l'intérieur des troupes pour arriver effectivement à certains objectifs, bien entendu. Ok. Et puis alors concernant les mots. Alors voilà, vous avez finalement, ça a chapeauté, ça a terminé la fabrication de la création de la pièce. C'est ce qui a conclu à un moment donné, on dit voilà, maintenant on a traversé ces moments, ces espaces ensemble, on va pouvoir mettre des mots sur ce qu'on a envie de dire.
Effectivement, il y a de ça. Alors peut-être dans le propos, oui, dans le propos de la pièce, oui, mais dans le travail qu'on a fait, il y avait aussi déjà un peu de travailler autour de la prononciation des mots. Et tout, on avait ces exercices où les francophones devaient prononcer des lettres arabes qui sont très peu communes, des qaf, des a, des kha. Et du coup, en plus c'est rigolo, quoi. Mais il y avait déjà cette volonté de travailler sur le mot en soi, en tant qu'objet de parole, quoi. Et pareil pour le français. Enfin, vu que c'était une pièce qui allait parler de la langue. C'était évident que le mot allait se trouver au centre du processus, quoi. Ouais.
Donc c'est beaucoup la forme des mots qui a prêté à rire, j'imagine.
Ouais.
Et puis le fond des mots, ça c'est assez facilement, vous avez trouvé les bons mots. Où il a fallu quand même expliquer le contenu, tu vois ce que je veux dire, le sens.
Effectivement, comment dire. Oui, ça a été un boulot. En plus, c'était quelque chose qu'on connaissait pas parce que c'était la première fois qu'on se mettait à écrire de cette manière.
Ouais.
Mais vu qu'on était en train de le faire ensemble, tout le monde a pu donner son idée, et ce qui fait que quand on était au consensus, on savait que le mot il voulait dire ce qu'on voulait qu'il veuille dire.
Ouais.
Et c'est comme ça qu'on y arrivait. Et puis on a essayé aussi de travailler avec des mots qui sont communs ou qui s'influencent. C'est vrai qu'on le sait pas beaucoup, mais en français il y a beaucoup de mots qui viennent de l'arabe. Et dans l'autre sens c'est vrai aussi.
Et dans l'argot, hein, tabib, toubib, voilà. Flouze,
kawa.
Kawa. Ouais. Bah oui.
Donc voilà.
Ouais, plus qu'on ne le pense, comme tu dis, effectivement. Y a-t-il des notions qui étaient délicates, justement? Typiquement, le mot exilé, réfugié, migrant. Est-ce que ça, c'est... On ne va pas aller beaucoup plus loin que ça, mais déjà ça, est-ce que ça, il a fallu décoder un petit peu ces... Typiquement, à Genève, si on voit expat quelque part, ce sera tout autre chose que si on lit réfugié, tout ça.
C'est marrant parce que, en fait, on pensait... La partie vraiment de l'exil et tout ça, elle se développe dans la pièce à travers des monologues. Et puis c'est là vraiment où on a voulu laisser la parole aux migrants et pour leur laisser dire ce qu'ils avaient à dire. Et puis voilà, on s'est automatiquement dit, bon, ça risque d'être le moment de la pièce où ça va faire réfléchir, où ça va être un peu plus grave, ou voilà. Et puis en fait, ils sont arrivés avec des textes hyper marrants, et puis ils ont voulu déconner sur leur situation, et puis on s'attendait pas du tout à ça, mais c'était génial. Et du coup, il y a pas eu trop de trucs un peu tabous, de choses où on s'est dit comment on va mettre ça, ça risque d'être délicat, de heurter et tout. Ils sont directement arrivés avec quelque chose de très déconneur, et puis ils ont et moi je trouve que c'est aussi une manière d'approche qui est hyper intéressante, parce que finalement on s'attend beaucoup à ce que ce soit moralisateur, à ce qu'on se dise oh là là les pauvres et tout ça, mais en fait eux ils ont pas envie d'exprimer ça, et puis c'est ça qui est hyper cool avec cette pièce, c'est qu'on leur a laissé la chance de libre cours à leur propre imagination, et en fait ils ont dit des choses auxquelles on s'attendait pas du tout, et puis c'est peut-être mieux comme ça.
Carrément.
En fait, on n'a pas eu du tout ce problème du choix des mots, de migrants, etc. dans le cadre de l'écriture de la pièce. On l'a eu quand on devait écrire des dossiers pour vendre le truc à des institutions genevoises, quoi, parce que c'était là, mais si on dit ça comme ça, en fait nous quand on bossait c'était pas tellement, c'était,
ça avait même pas cours, quoi. Voilà. Ouais. Ok, alors justement on arrive doucement au terme de l'entretien, avant qu'on fasse le tour en disant pour que vous puissiez citer toutes les personnes et tous les corps de métier représentés dans le collectif, hein, typiquement violoncelle, tout ça. Mais avant cela, j'aurais encore envie de vous demander une dernière petite question concernant la pièce, même si elle n'a pas encore eu lieu. Mais y a-t-il d'ores et déjà des anecdotes comme ça qui vont vous rester dans la mémoire, des situations un petit peu incongrues. J'ai l'impression que vous êtes quand même bien amusé.
Ouais, c'est clair. Ben, en fait, moi, c'est surtout à travers la mise en scène, parce que j'avais vraiment aucune idée. On avait le texte et tout. Et puis, au bout d'un moment, quand on a commencé à mettre les choses en place petit à petit, en fait, il y a certaines choses qui sont sorties hyper spontanément. Et du coup, ça faisait un peu penser à de l'écriture de plateau, parce que certaines personnes improvisaient sur un truc et proposaient quelque chose. Et puis moi, j'étais là, ah, mais on garde ça, c'est hyper drôle, c'est génial. Et du coup, moi, ça a été un peu ma partie préférée, c'est de voir vraiment le texte se mettre à vivre à travers les comédiens, et puis de voir que ouais, certaines choses ne marchent pas, donc on coupe ou rajouter certains trucs et tout ça. Et ça, ouais, moi, personnellement, c'est ça qui m'a le plus plu, quoi, à voir.
Ok, ouais, et toi, Paul ?
Je dirais, enfin voilà, j'ai effectivement pas non plus d'événements précis avec une date, etc. Mais c'est vrai que, comme dit Françoise, pour moi c'est d'autant plus vrai que j'ai écrit des conneries dans ma chambre, et d'un seul coup je vois quelqu'un qui les dit et je trouve ça drôle. Donc voilà, c'est super, c'est vraiment un bon délire.
Ok, y a-t-il parmi nous des questions qui surgiraient ? Non. Alors. Si vous êtes d'accord, on en termine avec ça. On va rappeler les dates, la page Facebook. Mais avant cela, toute l'équipe, ce serait sympa. Parce qu'effectivement, je ne vous ai pas encore posé la question. Qui fait quoi ? Vous êtes quand même nombreux.
Ouais.
Allons-y.
Ouais.
Qui commence ? Françoise ou Paul ?
Vas-y.
D'accord, j'y vais. Mmh. Alors, on a créé la SOS à 3 au départ. Donc, il y avait Françoise qui est aujourd'hui la secrétaire de la SOS, moi qui en suis le président, et Léa Mahassen qui est la trésorière. Mmh. Ensuite, dans les comédiens... c'est le moment de ne pas oublier quelqu'un. Donc, dans les comédiens, on va donner d'abord les migrants. Il y avait Rami, Fadi, Youssef, Dia et Obada, qui sont donc les 5 migrants qui viennent de Syrie. Et puis, chez les jeunes voix, il y a donc Jules, Baptiste. Baptiste qui fait aussi les percussions, donc qui joue et qui fait les percussions. Pauline,
qui
fait le violoncelle. Noé à la musique. Christelle, est-ce que j'en oublie un ?
Yasmine,
évidemment. Et ça, c'est tout pour le jeu.
D'accord, ouais.
Je crois.
Ouais, il me semble, ouais.
Et puis les musiciens, en fait, y a Noé, moi je fais la basse, Pauline et Baptiste, on est 4.
Le décor, voilà. Toutes ces choses-là, costume et décor, ça,
costume et décor, on s'est débrouillé entre nous.
Ouais, voilà, on s'est débrouillé, ouais.
Et puis tout ce qui est ensuite com, toutes ces démarches, les dossiers. Ah ben du coup, j'imagine vous deux.
Ouais.
En fait,
ouais.
Okay. Pauline m'a filé
un Pauline
a
beaucoup aidé aussi,
ouais.
Okay. Ouais, niveau dossier.
Création du dossier, on a fait un dossier de une quinzaine de pages.
Ça veut dire qu'en gros, vous êtes 15.
C'est ça, ouais.
Quasiment.
C'est ça. Et puis après, il y a des gens qui ont gravité autour. Je pense à Valentin, Valentin Tengler, qui a fait le logo de Miel de Luciole, à Boris Jordan qui a fait l'affiche. D'ailleurs, c'est son anniversaire, en plus.
Oui.
Et puis Loïc Varidel qui va nous faire la lumière.
Ouais.
Ah oui, juste. Effectivement.
Et puis voilà. Sinon, on peut encore remercier les gens de l'Almacène qui ont super bien accueilli. Et puis, je crois qu'au niveau de l'équipe, on a fait plus ou moins le tour.
C'était pas trop compliqué de réunir toutes ces personnes-là pour toutes les répétitions, pour le filage.
Parce que 15 personnes, c'est la grosse question.
Voilà, étudiant, t'as plein de trucs à faire. Et
si, bah oui, c'était le bordel. D'autant que voilà, on a tous le même âge, donc voilà, on n'a pas forcément à leur dire avec autorité que voilà.
Du
coup, c'est vrai que chacun a sa vie, chacun a ses études, chacun a sa famille, chacun a ses préoccupations extérieures. Donc ouais, des fois, ça a été un peu.
Ça veut dire chaud. Que c'est un travail qui a pris combien de temps à la louche ? Vous avez créé en fin 2016, tu as dit ?
Septembre 2016. On a créé la SOS.
On a commencé les répètes en octobre, par là. Et puis.
6 mois,
ouais,
quoi.
6 mois,
voilà,
ouais.
Waouh, ouais.
Wow, c'est un long travail. Bon, en tout cas, je vous remercie. On va rappeler encore les dates. Vous voulez le faire, vous ? Je lis, moi.
Vas-y, fais-le.
Alors, 28, 29 et 30 avril, ainsi que le 1er mai à 20h, sauf le dimanche à 17h et le lundi, certainement à 20h30 plutôt.
Voilà, quelque chose comme ça.
Exactement.
Ce sera à l'Almacène, c'est 6 rue des Amis aux Grottes,
ouais.
Juste derrière la gare Cornavin. Pour les bus, c'est la gare, donc il y a tout le monde qui arrive là, quoi. Mmh. Super, je vous remercie beaucoup Françoise et Paul d'être venus.
Merci à toi
de nous avoir expliqué tout ça. J'espère qu'on va vous accompagner même là-bas un petit peu plus loin, on verra. Mais quoi qu'il en soit, force et courage. Et puis nous, on salue en bloc votre initiative parce qu'on trouve ça juste
Génial, donc merci et à bientôt.
Merci beaucoup,
merci
à bientôt.
Ciao.
Voilà, nous on va faire une petite pause, une petite respiration musicale, un petit peu plus long qu'un titre, hein. On va s'en passer 2-3, et puis on reviendra pour la suite des opérations, qui est la chose suivante. Nous sommes donc en bas de la devant la Maison Verte, en plein cœur des grottes, la place éponyme, j'allais dire, pour le repas solidaire péruvien jusqu'à 20h. Rejoins-nous sur place si tu souhaites te saisir d'un micro, nous dire des choses ou juste, ou surtout venir participer à la journée de solidarité avec les populations péruviennes qui ont été balayées, retournées dans tous les sens par ces éboulements qui ont lieu en 2017, hein, cette année-ci. Et puis, nous, on fait une petite pause musicale avec quelques chansons. On va commencer avec, voilà, 2-3 petites chansons, un peu péruviennes, un peu métal, un peu punk. C'est un petit pêle-mêle comme ça, une petite compile qu'on vous propose. Et puis, si tu souhaites nous interroger concernant nos invités, eh bien, tu peux le faire à l'adresse suivante, info@libradio.org, ou alors via la page Facebook de l'émission La Comète à la Banane. Nous sommes ensemble jusqu'à 17h sur la FM, la DAB et le web. On y va.